le grand retour de notre ex-enquêteur de la Sûreté du Québec en studio. On a plein de choses à se raconter hors onde.
Oui, il y a des affaires assez plates du bout-là, hein, pour les gens qui sont sur le Twitch, mais il y a des affaires qui ne peuvent pas se rendre en
Il y a du mémérage, on fait du mémérage. Ben oui. Il est là, il est avec nous, Danny Morissette. Comment ça va, mon ami?
Écoute, salut Yann, salut Audrey. Ça va mieux que la dernière fois. Oui. J'ouvre, j'en ferme une parenthèse. Je suis sincèrement désolé. Mercredi passé... C'est pas arrangé avec le gars des vues. J'ai fait une labyrinthite. Ça, c'est quelque chose que je souhaite peut-être à une ou deux personnes, mais pas plus que ça. Là. J'ai perdu connaissance, carrément. C'est pas parce que je voulais pas venir. Au contraire, je m'étais préparé la veille. J'avais parlé avec Audrey.
Ouais.
Mais je suis sincèrement désolé, gars.
C'est vraiment pas grave. T'as-tu déjà fait une labyrinthite, Audrey?
Ma mère a déjà fait une labyrinthite.
C'est capoté parce que t'es dans ton lit, puis là, t'as l'impression que t'es sur un voilier.
Ouais, t'es chaud en tout temps.
Puis là, un moment donné, tu regardes le plafond, on dirait que c'est le plancher. Après ça, là, toi, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais couché au plafond? Ça marche pas. C'est épouvantable, ça. Ça a duré combien de temps?
Ben, je suis encore un peu là-dessus. T'es encore des médicaments, okay. Mais je suis à peu près à 80%. C'est parce que ça joue bien gros sur la mémoire puis sur le cerveau aussi.
Ouais.
À partir du moment que tu bouges, t'es étourdi.
Exact. Fait que c'est vraiment dans les oreilles, ça.
C'est le liquide, que le labyrinthe, là, c'est un petit os que t'as dans l'oreille, puis c'est le liquide qui est dans le trouble.
Hey, on a des gros sujets à jaser avec toi aujourd'hui. Je vais commencer par des petits. La Ville de Québec, le service de police de la Ville de Québec qui a appris qu'on allait prêter main forte en leur donnant des agents de la Sûreté du Québec. Comment ça se passe, le municipal versus le provincial, quand vous avez à travailler ensemble? C'est-tu toujours bien reçu? Y en a-tu qui gardent un peu d'informations de leur côté? Ils veulent-tu mieux paraître que les autres que le corps, l'autre bord, qui fait enquête à peu près sur les mêmes choses qu'eux?
Mais ça a changé beaucoup. Tu sais, avant, oui, tu avais des gardes-clochers, mais...
On vous appelait les bruns?
Ben non, ouais, c'était les verts puis les bleus.
Les verts puis les bleus.
Ouais. Moi, j'étais un peu un mix des deux parce que j'ai fait SMPSQ. comment ça marche? Ben, tout est dans l'approche, je pense. C'est pas comme dans les films où c'est que le gars du FBI arrive et il dit « OK, tossez-vous. »
C'est
là,
moi qui est en charge.
C'est moi qui est en charge. Non, tu sais, il y a une question d'approche, puis de diplomatie, puis d'attaque. Puis toutes les fois que j'ai travaillé, puis encore les dernières années de ma carrière que j'ai travaillé avec la Ville de Québec, ça allait numéro un, une question d'attitude, puis c'est le fun de travailler avec la Ville de Québec. C'est un beau corps de police.
Oui. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont déterminées d'avance? C'est-tu un chef du côté de la SQ qui discute avec un autre chef du service de police de la Ville de Québec? Puis là, ces deux gens-là s'entendent, puis après ça, ils font descendre ça en bas? Ou c'est vraiment une escouade qui est carrément formée où il n'y a qu'un seul chef? Ça peut être un gars de la SQ ou encore du service de police de la Ville de Québec. Puis en dessous, les agents sont autant d'un bord comme de l'autre. Vous êtes tous mixtes?
Bien, on est tous mixtes. À partir du moment où c'est que le gouvernement prend la décision que la SQ va aller porter main forte à la Ville de Québec, là, après ça, ça tombe directement aux hauts dirigeants, aux deux états-majors, qui, eux, vont déterminer qui fait quoi. OK, vous autres, vous allez être enquêteurs, ça va prendre un chef d'équipe, ça va prendre un lieutenant. Puis là-dedans, bien, moi, je connais les enquêteurs, hein, ça fait pas très longtemps, je suis retraité, autant d'un bord que de l'autre. D'un côté, oui, c'est une bonne nouvelle parce que la Ville de Québec va avoir 10 enquêteurs de plus, gratuitement, de parenthèse. Et puis, c'est bien vu autant du bord du SPVU, du SPVQ que de la SQ. Ils sont contents d'avoir ces enquêteurs-là. Mais quand on parle de crime initié, on parle beaucoup de crime organisé, on parle de crime initié, on parle de projet à mi-long terme. Moi, ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que le directeur du SPVQ a pris la peine de mentionner que lui, ce que ça lui prenait, puis je le comprends, puis je suis 100% d'accord avec lui, c'est un budget, puis des enquêteurs à temps complet, toujours, sur le crime organisé. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de désabrier 10 enquêteurs de la SQ pour les envoyer au SPVQ. Mais ces enquêteurs-là, là, à la SQ, puis je les connais, ils ont des dossiers, eux autres, en enquête. Puis ces dossiers-là, en crime organisé, quand on contrôle les sources, il faut toujours être contemporain. Fait que là, est-ce qu'ils vont mettre sur hold leurs dossiers actifs actuellement pour les prêter main forte au SPVQ? Ils vont-ils être remplacés, ces enquêteurs-là? J'en doute fortement. Parce que normalement, les enquêteurs qui sont remplacés au crime organisé, ils vont prendre des gens de la patrouille. Puis la patrouille, ils sont déjà sur le fer. Fait que oui, pour le moment, c'est bon. C'est un beau petit plaster qu'on met sur le bobo. Mais c'est pas fini. C'est pas ça que ça prend à temps plein puis à long terme.
Je parlais avec Roger Ferland la semaine passée, qui est un ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec, un gars que j'aime bien. Moi, quand j'étais jeune, Roger Ferland, c'était une légende. Il courait après mes cousins. Puis j'y ai dit, en plus, quand j'ai rencontré Roger, qu'il était mes cousins, il a eu à les côtoyer souvent. Puis Roger dit, « Ah ouais, tu lui diras salut de ma part! »
C'est bon.
Mais ce qu'il me racontait, c'est qu'il y avait beaucoup à négocier avec les gens qui étaient au-dessus de lui concernant des coûts à certaines enquêtes. Alors que, à mes yeux, à moi, si on est au courant qu'il se passe quelque chose, on peut automatiquement enquêter. Roger disait, moi, il fallait que je monte un dossier, que je monte ça en haut, et après ça, si l'argent était disponible, là, je pouvais travailler là-dessus. Danny, honnêtement, je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Est-ce que du côté de la Sûreté du Québec, c'est la même chose? Est-ce que vous faites achaler par les comptables? C'est-tu les comptables qui gèrent le Québec là, pour ce qui est de la police?
Moi, j'ai fait du crime majeur puis des enquêtes de poste. Et puis, au niveau du crime majeur, le budget, je vous dirais, c'est du 1er avril à aller jusqu'au 31 mars. Quand arrive le mois de décembre, on recalcule nos papiers, puis autant comme responsable, j'avais un budget à gérer. Puis là, on resserre la vis. Les municipalités, c'est encore pire.
Oui, mais c'est une pression que vous avez, ça, en tant qu'enquêteur, d'essayer de rentrer dans les budgets. Il me semble que quand il y a une enquête qui en vaut la peine, puis on sait qu'on va pogner des criminels, ça n'a pas de prix, ça.
C'est frustrant parce que au niveau du crime majeur, OK, c'est beau, il y a un dossier live, on ne comptera pas là, le temps que ça prend, puis l'argent que ça a coûté, tout ça. Mais aux enquêtes de poste, qui sont quand même des bons dossiers d'enquête, il y a des dossiers d'agression sexuelle, souvent... Puis un beau caseload, on a des dossiers, 30 dossiers par enquête, par enquêteur. Je vous dirais que demander ne serait-ce qu'une heure d'overtime sur l'heure du midi, il faut que ça soit autorisé. Puis si c'est pas autorisé, regarde, tu vas manger. Fait que les enquêteurs sont tellement professionnels, autant des deux bords, là, SMSQ, qu'ils vont le travailler bénévolement. Parce qu'ils veulent que leur dossier avance, puis parce qu'ils croient en leur dossier. Puis travailler pour les victimes.
Tu sais, Danny, moi, tu sais pas, mais je veux établir une dictature à un moment donné. Là, je vais acheter mon île à moi, puis je vais créer ma propre civilisation, ce qui fait en sorte que je vais mettre mes propres règles. À mes yeux, à moi, quand les policiers tombent sur des caches d'armes ou encore des caches d'argent, cet argent-là devrait revenir au service de police et on pourrait utiliser cet argent-là pour faire d'autres enquêtes, pour lutter contre le crime organisé. Mais depuis des décennies, je sais qu'à chaque année, il y a de l'argent cash qui se brûle, puis cet argent-là disparaît totalement et ne sert absolument à rien. À mes yeux, à moi, on pourrait faire même un 50 %, tu sais, un 50 % aux bonnes œuvres, puis l'autre, justement, pour aider aux enquêtes à notre service de police. T'es-tu déjà demandé pourquoi on faisait pas ça? Pourquoi on brûlait cet argent-là plutôt que s'en servir?
Oui, même les policiers au complet, on se pose la question parce qu'on saisit des véhicules, exact. On saisit de l'argent, on saisit des armes. Et dans les cas de gros dossiers, c'est des produits de la criminalité qu'on appelle, on va saisir des maisons. Puis, à un moment donné, la maison, tout ça, quand il y a l'équité, il n'y a plus d'équité ou la maison appartient d'un autre côté à une banque,
ouais.
Tu sais, cet argent-là, elle va où? Elle va où les exhibits, là? Nous autres, quand on les détruit, la drogue, ça, c'est correct, là. Mais le restant, ça va au gouvernement. Puis souvent, eux autres, la façon qu'ils vont diluer ces exhibits-là, ils vont vendre ça aux enquêtes.
Ils vont pitcher ça ailleurs. Ouais. Sans que ça revienne aux services de police qui ont travaillé pour la trouver, là.
Jamais, ouais.
Ouais. Bref, ça serait ça dans ma dictature. Ce serait pas pire.
Je vote pour ça.
j'ai un premier citoyen. C'est un ex-enquêteur de la police. OK, hey, on a plein de sujets à jaser avec toi. Je voulais parler de l'opération Mr. Big. Moi, je me souviens d'une femme. Peut-être Audrey, tu pourras embarquer sur Google parce que je veux retrouver son nom. Mais c'est une femme qui avait rencontré un homme qui habitait dans le secteur Vanier, et l'homme l'a tué. Mais pendant des semaines et des semaines, on recherchait cette femme-là. Puis on a fait une opération Mr. Big pour embarquer ce gars-là. C'était un gars de Vanier.
Alain Perrault?
Oui, c'est ça.
Alain Perrault. Lynn Mascotte.
T'as une bonne mémoire.
C'est un classique. Tu vois, je peux pas y googler, mais là, tu vas être un expert avec toi.
Tu mets les mots-clés. Vanier, meurtre, opération Mr. Big, tu vas tomber dessus. Ouais. Donc, dans son dossier, lui, on a vraiment monté une opération Mr. Big autour de lui. On l'a fait rencontrer un individu. Cet individu-là travaillait pour d'autres individus qui étaient plus haut gradés. Puis le gars a comme trouvé une famille dans laquelle il pouvait avoir un peu d'argent s'il réalisait des petits contrats.
Exact.
Puis, à la fin de tout ça, s'il voulait encore monter plus, il y avait une rencontre avec le chef de l'organisation. Puis le chef de l'organisation a dit, « Moi, je veux savoir exactement tout ce que tu as fait de croche pour être sûr et certain qu'il n'y a rien qui remonte à nous autres puis qu'on puisse te rentrer pour de bon dans l'organisation. Et on avait demandé à Alain Perrault, là, le corps, est-ce qu'on peut le retrouver quelque part? Tu sais? Puis là, Alain Perrault, il avait dit une affaire comme oui, oui, on peut le retrouver quelque part. Puis il les a niaisés dans le secteur de Lévis, de mémoire, et on n'a jamais réussi à retrouver son corps. Et, mais le gars avait été pogné dans une opération Mr. Big où il avait dit qu'effectivement, elle l'avait tué. Mmh. Et là, il y en a une autre opération Mr. Big qui a été faite autour d'une gardienne de Québec qui était accusée d'homicide involontaire.
Sur un bébé de 13 mois.
Exact. Puis, je veux dire, ça demande énormément d'argent, justement, créer cette opération-là, Mr. Big. Comment ça se passe du côté du service de police quand on crée ce genre d'organisation-là, qui est une fausse organisation?
Bien, premièrement, Mr. Big, c'est qui? C'est qui Mr. Big? Pourquoi on l'appelle ça de même? Bien, Mr. Big, tu l'as nommé, c'est le chef de l'organisation fictive. Puis c'est quoi un Mr. Big, en gros? Bien, c'est la création par un service de police d'une organisation criminelle. Et là, entre autres, par rapport au dossier de la gardienne, ça peut être également une organisation qui est non criminelle. Où est-ce que, via divers scénarios d'infiltration, on va amener une personne où est-ce qu'on a des bons doutes qu'elle a commis un crime grave, il faut que le crime soit grave, à l'amener tranquillement, via plein de scénarios, à rencontrer Mr. Big, qui est le grand boss là, de l'organisation, puis à lui donner l'opportunité d'avoir des aveux. Des aveux et ou des admissions.
Mais c'est excessivement... C'est délicat, là, parce que... Moi, je trouve que ce monde-là, son cocombe de se faire prendre, là, dans le sens que... Moi, je commets, bon, un meurtre ou quelque chose de gros, puis demain matin, il y a du monde qui rentre dans ma vie, puis là, tout d'un coup, j'aurais confiance ouais. en ces gens-là.
Attends un peu, là. T'as un gros sac social, t'as un chum, t'as une job, tes parents sont là, sont très présents, t'es pas isolé. Un gars comme Alain Perrault, là, tout le monde voulait le tuer. Là. Tout le monde dans l'entourage d'Alain Perrault voulait le tuer. Il était rendu seul au monde, sans ressources. C'est un gars qui était sur l'aide sociale depuis des années et des années.
Mais moi, je te parle de la gardienne maintenant.
Oui, mais il vivait une grande pauvreté. Puis là, il rencontre un gars qui devient son meilleur ami, qui devient son confident, qui lui fait faire un peu d'argent, coût de 100$, 200$, 300$. Quand tu n'as pas une scène dans tes poches, il y a de la valeur à ça. Puis là, tout d'un coup, il y a des gens qui semblent t'apprécier, puis trouver que tu es bon. Ils te donnent comme une valeur que tu pensais pas que tu avais. Tu te fais embarquer. Ces gens-là ont des grands manques, là, je veux dire, quand ils sont dans ce genre de situation-là. Puis Alain Perrault, c'était pas un génie, là, mais il s'est fait effectivement embarquer. Là.
Puis tu sais, t'amènes carrément le point principal que la défense va amener, si ce n'est pas déjà fait, dans le dossier de la gardienne. Comment que les aveux ont été obtenus? Comment que le suspect a été manipulé dans le Mr. Big? Tout d'abord, le Mr. Big, là, ça ne date pas de 100 ans. Là. C'est inventé dans les années 90. C'est la GRC qui l'a inventé. Puis c'est exclusivement au Canada. Il y a peut-être un peu l'Australie qui le fait, mais tu n'as pas ça aux États-Unis. Tu n'as pas ça ailleurs dans le monde. Puis... Question quiz, comment de Mr. Big ont été faites depuis la création au début des années 90?
Je te dirais peut-être une vingtaine.
Une vingtaine?
J'aurais dit une quinzaine, vois-tu?
On en est rendu à 350.
Oh, Pelaire, qui okay. ont
On n'entend pas toujours parler.
Non, c'est ça!
Oui, mais de plus en plus, et c'est pourquoi maintenant, puis tu sais, je me suis fait rabrouer la semaine passée, quand j'ai fait des recherches, je parlais de Mr. Big avec des collègues, puis ils ont dit non, on n'appelle plus ça un Mr. Big. On appelle ça une technique d'infiltration en crime majeur. Pourquoi? Parce qu'on a brûlé le nom Mr. Big. Fait que si jamais un jour vous entendez technique d'infiltration en crime majeur, faites le lien parce qu'on va de moins en moins entendre parler de Mr. Big. Puis oui, ça coûte cher. Ça coûte cher en ressources humaines parce que ça va prendre des agents d'infiltration. Ça coûte cher en ressources matérielles parce que, je vais vous donner un exemple du bureau de change, probablement un des plus gros Mr. Big, le projet Compote de la GRC. Puis, des ressources financières, parce que c'est pas un dossier d'enquête qui se fait en un mois sur le coin d'une table. Ça peut durer des mois, voire des années. Vous donnez un exemple de Mr. Big, bien, puis je vous parlerai de l'arrêt Hart après. Mr. Big, là, à l'époque, tu avais la mafia. Ben, la mafia à Montréal était très implantée dans l'économie légale, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et puis la GRC, racontait ça rapidement, a décidé de créer un bureau de change. Ils ont loué un édifice. Se sont fait former par la Banque nationale du Canada. Ils ne connaissaient absolument rien dans le change, dans le bureau de change, tout ça. Ils étaient au-dessus d'une centaine à travailler là-dedans. Moi, j'ai travaillé un peu dans ce dossier-là, mais vraiment de façon éloignée. Et puis, tranquillement, pas vite, ils ont gagné la confiance de la mafia qui blanchissait leur argent et transférait leur argent dans les paradis fiscaux. Il y a eu au-dessus d'une quarantaine, vous irez voir ça, le projet Compote, d'arrestation. Il y a eu plusieurs millions, c'est pas plus, de
qui
dollars
ont été perdus.
Qui ont été récupérés. Et puis, ces gars-là, il y en a encore qui sont en dedans, là-dedans. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Mr. Big, c'est beaucoup d'imagination. On parle du dossier de la gardienne.
Oui.
T'sais, moi, je lève mon chapeau à l'enquêteur que je connais, là, David Gionnet du SPVQ, parce que dans des cas de Shaking Baby, ce qui est le cas, là, le bébé secoué, c'est terrible. Oui,
puis les dommages, on parlait, là, cette pauvre fillette-là de 13 mois, là, les dommages, c'était équivalent à si elle avait été jetée d'un 10e étage. Là.
Exactement. Puis, tu sais, moi aussi, c'est venu me chercher, puis ça vient chercher tout le monde. Puis, pour en avoir enquêté plusieurs dossiers de bébés secoués, souvent, nous, ce qu'on fait, bien, on y va avec l'opportunité exclusive, c'est-à-dire, qui c'est qui est en contact avec l'enfant? Bien, t'as toujours les parents ou une gardienne ou la grand-mère. Ça tourne toujours autour de ça. Mais si les quatre personnes, tu les rencontres, puis ils ne disent rien, bien là, à ce moment-là, t'es foutu un peu. Il faut que tu utilises d'autres techniques. Et malheureusement, pas la majorité, là, mais il y a des enquêteurs qui vont passer à d'autres choses. On se regarde, c'est plate, mais on n'est pas en mesure de déterminer qui la tierce personne qui a touché l'enfant. Mais dans le cas de la gardienne, David, il a poussé ça, puis ça revient un peu à ta question, à ses boss, puis il a dit non, moi, je ne laisse pas ça passer. Là. Regarde, on est convaincu que c'est elle, il nous manque seulement des aveux. Donc, on va créer un Mr. Big. Et le Mr. Big a duré quelques mois, et il a fallu qu'il vende à son boss. Regarde, oui, ça va coûter de l'argent. Oui, ça va coûter des agents d'infiltration. Puis oui, il va falloir créer un scénario. Puis oui, il va falloir demander assistance à d'autres corps de police qui sont spécialisés en infiltration. Mais il a réussi. Mais ça, moi, j'appelle ça un excellent enquêteur. C'est de l'acharnement. Puis je suis très, très heureux pour les parents de cette jeune victime-là du résultat. Puis malheureusement, puis ça me fait glisser à l'autre sujet, l'arrêt Hart. C'est que Mr. Big, ça fait 350 fois qu'on l'utilise. Là, les procureurs, autant de la Couronne que de la Défense, commencent à connaître ça. Et ils vont se défendre avec Larry Hart, qui, l'exemple, c'est un gars, Nelson Hart. C'est un gars de Terre-Neuve, Labrador. Lui, en 2002, il a assassiné, il a noyé, ses deux enfants, il y avait des jumelles.
Tabarnouche.
Ouais. Puis au début, il a prétexté que... C'était parce qu'il a paniqué puis il ne savait pas nager. Il s'est noyé dans un lac. Donc, il est allé voir la police. Il a dit, il est arrivé quoi à mes enfants? Je ne sais pas nager. Ils sont mortes. Et puis après ça, il a changé sa version. Puis il a dit qu'il avait fait une crise d'épilepsie. Donc, ils ont fait le RCMP là-bas, la GRC, a fait un Mr. Big, où c'est qu'ils ont amené tranquillement Nelson Hart au tout début, à faire un scénario d'organisation criminelle. Il commettait des petits crimes, des fraudes à l'identité, des cartes de crédit, rien. Quand on fait des Mr. Big, on s'entend, là, on peut pas commettre... On a une certaine immunité policière, mais on peut pas commettre des crimes contre la personne. T'sais, on pourra pas accepter un voie de fait, un coup de couteau ou des choses comme ça. Fait que c'est vraiment des crimes contre la propriété, souvent des crimes financiers. Donc, tranquillement, pas vite, ils l'ont amené là-dessus. Et à la fin, c'est ça le but ultime du Mr. Big, c'est de rencontrer le chef de l'organisation sous prétexte que le chef de l'organisation, il y a de quoi qu'il l'agace dans son cas à lui. Il veut régler ça avec lui parce que c'est une question de temps avant qu'il se fasse arrêter. Un peu avec Alain Perrault. Alain Perrault, il a tout dit à cause que Mr. Big, il a dit, garde, tu vas te faire arrêter, puis moi, je ne veux pas te perdre, puis au contraire, je vais t'aider. Donc, Nelson Hart, lui, il avait une certaine vulnérabilité au niveau de... Le gars, il était peu instruit. Le gars, il n'avait pas d'argent. Le gars, il vivait en solitaire, il était isolé. Vous irez voir ça, là, la réhorte. Et puis, la défense est allée sur le fait que la police avait obtenu les aveux de façon illégale, que le consentement n'était pas éclairé, puis qu'il y avait une manipulation. Ils se sont servis de ces vulnérabilités pour qu'ils passent aux aveux. Donc, le dossier a tombé. Ce gars-là est encore en vie, est encore à l'extérieur des... Il fait encore ses trucs.
Fait que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Mr. Big ne fonctionne pas nécessairement. En tout cas, il faut que ça reste éthique dans la façon de faire.
Maintenant, là, le fardeau de la preuve est renversé. C'est-à-dire que la couronne d'entrée de jeu doit démontrer, avant même le début du procès, que les aveux ont été obtenus de façon légale, judiciairement légale.
Puis pendant toutes les opérations Mr. Big, ce qu'on leur demande de faire, c'est jamais illégal, c'est ça? On n'a pas le droit de pousser quelqu'un à l'illégalité.
En fait, oui, c'est qu'on peut dire, comme lui, là, Nelson Hart, ou même Alain Perrault, il commet des crimes.
Juste
avec
pas
les agents doubles, puis c'est graduel. T'sais, il peut avoir 5 scénarios, il peut en avoir 10, il peut en avoir 20, il peut en avoir 50.
Le Parce qu'on s'entend premier... qu'il ne fraude pas des citoyens, là. C'est organisé.
Tout
là.
Est organisé. Oh, oui, les victimes sont fausses, tout est faux. C'est un scheme qui est monté de A à Z, mais il commet quand même des actes criminels. Mais il y a une certaine immunité. Puis le but, c'est de gagner sa confiance. Puis à un moment donné, il arrive le jour où c'est que le big boss va le rencontrer, ce gars-là, parce que il commence à être bon. Là.
Est-ce que vous faites affaire avec des gens hors police pour monter ces opérations-là? Parce qu'honnêtement, moi, tous ces scénarios-là, pensez à tout, on dirait que je prendrais quelqu'un qui écrit du théâtre. Là. Dans la mesure où c'est énorme.
C'est des scénarios qui sont créés par des policiers, par des agents d'infiltration, qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience, surtout à la GRC, vu que c'est pas mal leur bébé. Mais encore une fois, quand on a monté le bureau de change, on a fait affaire avec la Banque nationale du Canada, où c'est qu'il y avait vraiment un secret confidentiel,
ouais.
qui nous ont donné de la formation pour ça.
Qui sont ces agents d'infiltration-là vers la fin des années 70, jusque peut-être au début des années 80, 81, 82, il y avait un gars, c'est un agent fédéral, je pense que c'est Joseph Pistone, qui Pistone. A infiltré, Pistone, qui a infiltré la mafia new-yorkaise. Puis ça a donné lieu à un maudit bon film avec Johnny Depp, soit dit en passant, ouais. Donnie Brasco, je veux dire, jeune policier. Tu sais, quand tu veux t'en aller comme policier, puis t'entends parler de ces histoires-là, des agents d'infiltration, tu sais, il y en a qui sont relégués à, je sais pas, moi, faire la circulation. C'est pas vraiment le genre de métier
pas
que
rêve,
le policier
là.
Veut faire au début de sa carrière, c'est-à-dire faire la circulation, mais c'est peut-être un passage obligé. Qui sont ces agents d'infiltration-là? Puis comment tu fais pour devenir agent d'infiltration?
Je t'avais dit, Yann, je pouvais pas en parler, mais il m'a renseigné. Écoute, je vais ouvrir. Je suis dur à casser, mais je vais ouvrir.
T'as-tu déjà essayé d'être agent d'infiltration?
Je peux pas répondre à cette question-là.
Ouais, ça reste top secret.
Ah, oui, oui.
C'est mais... quoi le nom que t'avais choisi, maintenant?
Oh, Yann, 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 Yann. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire qu'il faudrait comprendre, mettons, pour les auditeurs, là, sans te mettre dans le genou, ton centre?
Bien, agent d'infiltration, il y en a plusieurs sortes. On a des je vais parler pour la Sûreté du Québec. On a des agents d'infiltration qui sont permanents.
OK.
On en a très peu. On a environ entre 5 et 10, je vous dirais. Eux, ils font ça l'année et ils vont faire des projets à mi-long terme, le plus souvent qu'autrement. Et on a des AI, nous on les appelle les AI, agents d'infiltration temporaires, qui, c'est des patrouilleurs, qui, à l'occasion, vont participer à des petits projets d'infiltration d'enquête. Exemple, je vais vous donner un exemple classique. On a une maison, on sait que la personne a vendu de la drogue, des cigarettes de contrebande. Bon, ben OK, on va prendre l'agent d'infiltration, on va expliquer un peu le scheme, comment il fonctionne. On va lui dire, regarde, il habite à cette adresse-là, tu vas aller acheter de la côte, tu vas aller acheter des cigarettes. Ce gars-là, il vend n'importe qui. Fait qu'à ce moment-là, il va y aller. Ils sont souvent deux. Puis il y a toujours des agents couvreurs. Il ne faut pas penser que les agents d'infiltration, là, ils vont là tout seuls. Tu as toujours du monde qui sont prêts à réagir si jamais il arrive de quoi.
Mal.
Ça
okay.
se passe mal. Et c'est ça. Puis ces agents d'infiltration-là, contrairement à ce que le monde pense, ben ils vont témoigner. Dans le dossier à la gardienne, ils ont témoigné. Quand ils ont témoigné, il y avait des paravents pour que pas personne les voit. Et de la façon qu'ils vont témoigner, on ne sortira jamais le nom.
OK. Fait que ces gars-là vivent au travers de nous, mais on ne saura jamais que c'est des policiers, puis ils font tout le temps ce genre de petite mission-là.
Oui, sauf que à un moment donné, ils ont l'obligation de rencontrer des psychologues, et souvent... les agents d'infiltration permanents, tu ne peux pas faire ta carrière là-dedans, plus maintenant. Avant ça, on en voyait, mais une fois que tu as fait 5 ans, tu commences à être brûlé un peu, tu commences à être connu...
Il y a ça
souvent,
aussi,
ils vont te transférer aussi un peu partout.
Dany, tu as le droit de me dire que tu peux pas répondre, mais j'ai vu un film cette année, OK, qui s'appelle Hitman sur Netflix. Je sais pas si tu as vu ça, il faut que tu regardes ça. C'est avec Glenn Powell, puis en gros, ce film-là, c'est un faux tueur à gages qui, justement, fait de l'infiltration pour récupérer les criminels. Puis ce qui devient drôle dans le film, c'est que le personnage, c'est un nobody qui est pas bien, bien apprécié, puis il se crée des personnalités dépendamment de l'infiltration qui fait... Il est costumé, il se crée une attitude. Puis bon, là, il y a une histoire d'amour qui embarque, fait qu'il reste scotché sur un de ses personnages, là. Mais ça m'amène à te demander, est-ce que quand il y a infiltration, c'est utiliser ça, les costumes, le tu sais, changer l'apparence, les prothèses capillaires, j'imagine, tout ce stock-là, tu peux pas garder ta face?
On appelle ça des cover stories.
Comme Dany, il n'y a pas une vraie moustache. Là. Ça, c'est sa fausse.
Imagine.
Il essaie de te ressembler.
Ça, c'est son costume de chroniqueur radio.
Non, de la manière ça fonctionne, c'est qu'une fois qu'on réalise qu'on a besoin d'un agent d'infiltration ou des agents d'infiltration dans un dossier d'enquête X, on va se faire ce qu'on appelle un cover story. Donc, on va avoir une fiche avec notre nouvelle identité. On va avoir des pièces d'identité différentes.
C'est un personnage qui est créé.
C'est un personnage. Et puis, il faut vraiment... Tu sais, un agent d'infiltration, c'est un comédien, là. Ça prend un bon sens de la répartie. Il faut que tu saches t'en virer sur un 10 cents.
T'as-tu une formation pour ça? Parce que j'imagine que c'est pas n'importe qui est choisi, là.
Une formation de 5 semaines, oui.
Ah oui?
Oui, 5 semaines... C'est ça.
Pour être capable de... Non, mais c'est correct, tu mets tes limites, c'est important.
De plus
là.
Être toi-même. Un de mes chums, qui est un ex-agent de la GRC, nous écrit par texto, je le salue, soit dit en passant, au 418-971-1021. Pour ce qui est des gens qui veulent faire de l'infiltration, puis qui ont l'intention d'en faire quand ils seront rentrés dans la police, lui, il dit qu'il faut vraiment limiter les empreintes sur les réseaux sociaux.
Oui.
Tu sais, ta face sur les réseaux sociaux, il faut qu'elle ne soit pas là.
Mais ça, c'est-tu quelque chose qui vous apprennent dès que vous êtes en technique policière? Parce que j'ai des proches qui ont terminé il n'y a pas longtemps, tu sais, leurs études, puis il faut qu'ils changent justement. Plus de photos de profil, qu'ils changent leur nom, ils disparaissent un peu des plateformes.
Oui, effectivement, c'est ce qu'ils conseillent. T'sais, moi, mon nom, il est encore là sur Internet, sur Facebook, parce que je suis un peu vieux, puis on peut me retrouver facilement. Mais dans un monde idéal, il faudrait que je le change, tu sais. Mais oui, c'est une question que on a vu des histoires où c'est que, surtout les filles, je vous dirais, le suspect ou peu importe, moi, dans mon cas, une victime m'a retrouvé sur Internet puis était en amour avec moi, elle m'offrait des cafés,
mais aller chez oui. eux.
Oui, mais tu sais, c'est fréquent, là.
Tu peux pas empêcher un cœur d'aimer, Dani?
Non, mais
un bel homme comme toi. Oh.
La fille a trippé sur le beau policier qui l'arrêtait comme m'a cherché sur Facebook.
Bien, satisfait du travail que j'ai fait. Exact. Là, on parle au niveau professionnel. Mais oui, il nous suggère de changer notre nom. Tu sais, mettons Morissette, mais je vais mettre mort avec une truite, je sais pas.
Non, oh, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est particulier.
Ouais.
On a parlé de Mr. Big, mais il y a d'autres techniques d'enquête que vous utilisez au quotidien. Puis tu nous as sorti l'ADN, puis ce qui était empreinte digitale aussi.
Oui, ben moi, je suis pas une police scientifique, loin de là. Mais quand même, ouais, on peut en parler des empreintes digitales, rien que pour le fun. On va une petite question quiz, Audrey.
Vas-y donc.
D'après toi, là, c'est quoi les probabilités d'avoir la même empreinte digitale que quelqu'un d'autre?
Mais on c'est pas zéro, il me semble.
Une chance sur combien?
Une chance sur, mettons, on est quoi?
2 millions, je sais
un
pas.
Un sur 9 milliards.
Oh, ben, au niveau, excuse, j'ai fait mes devoirs, là, je ne savais pas par cœur. C'est une chance sur 64 milliards.
OK.
Hey, moi, je pensais que tu n'avais pas la même que personne dans la vie.
Ben, c'est ça.
C'est ça. Les seules personnes, d'après vous, qui ont les mêmes empreintes digitales à la naissance.
Est-ce que ce serait les jumeaux?
Les jumeaux identiques.
Ouais.
Puis encore, parce que quand tu vieillis, à un moment donné, les crêtes, les sillons que tu as autour de tes doigts, on les voit, les trous, ça fait des petits cercles. C'est ça, les empreintes. Là. On dit souvent empreintes, mais c'est empreintes en passant. Là, je me fais souvent reprendre. Puis les jumeaux identiques, avec le temps, à un moment donné, tu manipules des choses, tu travailles avec tes doigts, donc...
Ça laisse des traces.
Ça laisse des traces, des stries. Donc, là, à ce moment-là, on peut les distinguer. Compte une anecdote... À un moment donné, à Port-Cartier, c'est beaucoup des détenus qui ont des problèmes de santé mentale. Et eux autres, là, pour ne pas se faire prendre, il y en a un qui s'était brûlé les 10 doigts avec de l'azote en se disant « jamais qu'on va retrouver mes empreintes digitales ». Un autre qui s'était coupé les 10 doigts en s'ébuffant.
Okay. Mais voyons. Quand tu te coupes les doigts, c'est sûr que tu ne retrouveras jamais tes empreintes digitales, mais si tu les brûles ou ça va repousser, là?
Oui, sauf que, en tout cas, lui, c'était vraiment avec de l'azote là, ou de l'acide, je ne sais pas. Il n'y avait plus de doigts, là.
Okay.
Oh, mon Dieu!
Mais on n'est pas rendu à prendre la dactyloscopie des pieds. Pas encore.
Ouais. Mais maintenant, je pense que ça va loin. Ce n'est pas juste les empreintes digitales. Ce qu'un policier m'avait raconté de la Sûreté du Québec, c'est qu'on y va avec la main maintenant. Ouais. Même les côtés de la main. Il essaie d'aller chercher tous les endroits où il peut y avoir des empreintes. Fait que si tu as juste, je ne sais pas moi, tu t'es à côté, là, comme ça ici, le revers de la main sur l'ordinateur, eux, ils vont avoir les stries du revers de la main sur l'ordinateur. Fait qu'il faut qu'il l'aille en banque, ça.
Mais là, ça a l'air
toute la main
au
complet, pratiquement, sauf en arrière, bien
entendu. Mais avez-vous comme une banque? Comment ça marche? Parce que je veux dire, moi, le matin, mettons, j'ai pas de dossier, j'ai jamais rien fait de ma vie, puis je me retrouve sur une scène de crime, là.
Mais toi, on n'aura pas tes empreintes digitales vu qu'on les a jamais prises. Mais oui, on a une banque, ça s'appelle le Safran, et puis ou Morpho. Admettons qu'on est sur une scène de crime, puis sur une vitre, on trouve une empreinte digitale. À ce moment-là, on va l'envoyer dans le système. Souvent, l'identité judiciaire nous donne un bon coup de main. Puis, il va y avoir ce qu'on appelle un match, une concordance, qui soit positive ou négative. Donc, c'est comme ça que ça nous permet de relier l'individu à la scène.
Fait que les empreintes, ça ne marche pas nécessairement dans tous les cas, puis à tout coup, là.
Non. Par contre, admettons qu'on a un suspect, donne un exemple classique, une série d'introductions par effraction, puis c'est tout le temps le même véhicule qui a été vu, puis là, on commence à penser, après l'enquête, que c'est tel individu qui a commis le crime, mais l'individu, il n'y a pas de dossier judiciaire, il n'y a rien. Il n'y a rien qui nous empêche de demander à un juge un mandat pour le prélèvement d'empreintes digitales. Et après ça, on va aller voir le suspect. On va dire, regarde, tu es suspect d'une série d'intros par effraction. Viens ici. On prend tes empreintes digitales. On renvoie ça dans le système. Paf, empreinte identique. Avec la probabilité que je viens de vous dire, 1 sur 64 milliards, les chances que la défense va avoir bien de la misère à dire
qu'est-ce qui
t'as pas impliqué.
Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? C'est-tu l'ADN ou les empreintes?
Ah, c'est une bonne question.
C'est une bonne question, les deux, mais l'ADN, nous, on l'appelle la reine de la preuve. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on va vous poser une question, les probabilités d'avoir le même ADN sont de commun, selon vous. Une chance sur...
Ça doit être à peu près la même affaire, selon moi. Là. Une chance sur... tu nous as dit quoi? 50 milliards tantôt?
64 milliards pour les empreintes.
Une chance sur 64 milliards, hein?
C'est une chance sur 5 millions. C'est pas mal moins, même.
Ah ouais, OK.
Mais n'empêche que 5 millions, on s'entend, là. Encore une fois, la seule exception, c'est les jumeaux identiques.
Non, ouais.
Ouais.
Je me rends compte que je ne connais pas partout comment ça fonctionne.
Ouais.
Puis
on me dit aussi que toutes les empreintes qui sont retrouvées sur une scène de crime sont répertoriées.
Oui.
Puis dans 20 ans, si tu te fais prendre, je ne sais pas, pour alcool au volant, puis que tes empreintes sont rentrées dans l'ordinateur, il va y avoir une corrélation entre ton empreinte puis l'empreinte qui a été découverte il y a 20 ans.
Meilleur exemple, Yann, puis là, ça ressemble beaucoup, les empreintes, là, avec l'ADN, là. Cas de l'ADN, là, Marc-André Grenon, que je suis convaincu que vous en avez parlé, là, avec Guylaine Potvin. Pour ceux qui s'en souviennent pas, là, c'était à Jonquière, lui, c'est en 2000, il avait rentré par effraction chez elle, il l'avait violée, puis malheureusement, il l'avait tuée par la suite. Deux mois après, il avait fait la même chose avec une fille de Québec. Mais on le savait que c'était lui, mais on n'était pas capable d'avoir une preuve hors de tout doute raisonnable. L'ADN a énormément évolué, ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, ça a popé. Il y a eu une concordance par rapport au dossier de Québec via l'ADN du sperme de ce gars-là qui avait été pris.
C'était fou parce que ce qu'on avait fait, c'est que les policiers avaient suivi Grenon au cinéma, avaient surveillé pour que personne d'autre boive dans le même breuvage que lui.
Exact.
Puis quand il avait jeté son breuvage, il avait récupéré la paille pour être capable d'avoir... Hey, c'est fucked up, là! Faut pas que tu rates ta shot puis tu vas au cinéma le nombre de fois qu'il faut, là, tu sais, dans le sens
que... Il
n'a
même pas écouté le film, pauvre policier.
non, mais lui, il écoutait notre suspect, là, là-dedans. Ouais. Il écoutait justement le tueur à gage, là, Gérald Galland. C'est drôle, hein?
Il écoutait le film Gérald Galland.
Ça a donné... On a saisi sa paille pendant qu'il écoutait... Après qu'il ait écouté son film Gérald Galland, les Confessions d'un tueur, je pense.
C'est épouvantable.
Mais au moins, on a réussi à le prendre de cette façon-là. Et la fameuse banque génétique, là...
BNDG, la Banque nationale de données génétiques.
Oui, il y a ça, mais il y a Ancestry, qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, puis à la télé aussi. Ancestry, c'est tu peux savoir qui sont tes ancêtres. Bien, tous les services de police sont reliés avec sa banque-là. Donc, si jamais toi, tu demandes qui sont tes ancêtres, t'envoies ton ADN là-bas, ça se peut qu'ils découvrent dans ton ADN qu'il y a déjà quelqu'un qui est relié à un meurtre qui a à peu près une certaine partie de ton ADN, puis là, les policiers vont venir te voir, c'est arrivé ça dans le secteur de Toronto, les policiers vont venir te voir et vont dire, ben là, tu connais-tu telle personne qui est décédée en France en 93? Là, tu vas dire non. OK, ben c'est parce que là, en 93, la personne qui a tué a à peu près la même affaire d'ADN que toi. T'as-tu un frère, toi? T'as-tu un père? Oui, OK. On peut-tu les rencontrer? Puis là, ils vont leur faire passer des tests, puis ils vont les pogner.
C'est particulier pareil,
ouais.
Hein?
Mais le dossier à Grenon, c'était ça. C'est carrément ça. Ils sont allés avec Ancestry à la fin.
Ouais, c'est fou, Red, quand ils pensent. Mais là, c'est une drôle de question, là, mais on dirait que j'essaie de tu sais, mettons, là, quand vous avez des enquêtes comme celle-là, là, on va tout chez le médecin à un moment donné dans notre vie, là, peu importe le pourquoi du pourquoi. Là, je veux dire, il me semble, mais dans le système de santé, nos fluides doivent être présents quelque part. Ça peut pas être utilisé, ça, dans ce genre d'enquête-là?
Non, pas actuellement.
Au moins, parce qu'il me semble que ça aiderait anti-pépère, tu sais.
Écoute, avec l'histoire de Maureen Brault, on a réussi enfin à avoir un partage d'informations avec le système de la santé, ce qui est
une... Maureen Brault, c'est une policière, hein?
Oui. Par rapport aux antécédents, troubles mentaux.
Ça faisait 7 fois, je pense, là, qu'il y avait des troubles, le gars, là.
Fait que, tu sais, l'échange d'informations, s'il fallait qu'on prenne tous les échantillons sanguins puis qu'on mette ça dans le BNDG, je pense qu'il y aurait une expectative de vie privée énorme, puis ça passerait pas.
Les défenses pour ce qui est de l'ADN en cours, là, les avocats de la défense, là, quand ils veulent défendre les droits de leur client, ils se basent sur quoi pour essayer de détruire une preuve d'ADN? Parce que il me semble que c'est assez pertinent, une preuve d'ADN.
La seule façon qu'ils vont réussir à essayer de semer un doute envers le juge, c'est par rapport à la manipulation de l'ADN. C'est-à-dire à partir du moment où c'est qu'on prélève l'ADN d'un suspect, on a ce qu'on appelle une chaîne de possession à suivre. Donc, on doit tout noter. L'ADN doit être préservé dans un congélateur, pas plus que 24 heures, doit être transféré au LSGML, qui est le laboratoire de sciences judiciaires médico-légales, qui, eux, vont faire l'analyse et vont sortir soit le profil génétique de l'individu, s'il est connu, ou s'il n'est pas connu, vont sortir ce qu'on appelle une concordance de dossier. Donc, ils vont dire, regarde, puis ça, on a réglé plein de dossiers là-dessus. L'ADN que vous avez prélevé, on ne sait pas c'est qui. Par contre, le même ADN a été trouvé à telle place et à telle place. D'où l'importance des enquêteurs de s'appeler après et de dire « Hey, t'avais-tu un suspect, toi, dans ce dossier-là? Parce que j'ai le même ADN sur mon dossier à moi. » Puis là, à un moment donné, c'est comme ça qu'on arrive à remonter au suspect. Ouais.
Il y a quelqu'un qui pose une question étrange. J'ai pas la référence. Peut-être que les gars, vous l'aurez. C'est-tu vrai que les empreintes que McDo prenait dans les années 90 sont dans cette banque?
Ah non!
Non, j'ai jamais entendu parler de ça.
C'est la première fois que j'entends ça, mais ça serait pas
Donc la réponse est non. Oui, ça serait pas éthique non plus, j'imagine.
Non, on n'a pas d'entente avec McDo encore là-dessus.
Non, pas encore. On travaille!
Imagine la grosse conspiration.
On travaille fort sur Ronald McDonald. La relation entre les experts scientifiques versus les policiers, ça peut ressembler à quoi? Parce que je veux pas ces gens-là, ben vous avez votre propre champ de connaissances versus les scientifiques. Là, dans notre tête, on a toutes les CSI, là. Mm-hmm. Mais versus ces gens-là, est-ce que vous travaillez de concert ensemble constamment? Même vous allez en cours ensemble? Parce que je veux dire, lui, pour expliquer quelque chose de scientifique, toi, t'es peut-être pas adapté à être capable d'utiliser les mêmes mots.
Le LSGML, surtout quand j'étais coordonnateur au crime majeur, là, c'était quotidien. À tous les jours, on se parlait. On a une excellente entente avec eux. Ils ont autant le goût d'attraper les bandits que nous autres. Et puis, souvent même, là, ça marche un peu comme n'importe quoi, par contact. Ça pouvait arriver des fois que j'appelais puis je disais, écoute, tel dossier, parce qu'on s'entend, ils vont traiter les crimes contre la personne avant de traiter les crimes financiers et les crimes contre la propriété. Serait-il possible que tu me rushes tel dossier? Puis souvent, la réponse était oui. Parce qu'on n'a pas le résultat tout de suite. Ça peut prendre 6 mois, 1 an, des fois, avant qu'on ait le résultat. Mais okay. dans des meurtres, admettons, là, on va dire, regarde, mets ça en haut de la pile, là, c'est comme... ou les dossiers médiatisés. Donc, oui, on a une excellente entente, puis on a besoin d'eux autres, parce que c'est quand même nouveau, l'ADN. Là, ça date depuis le début des années 2000. Et de plus en plus, on grossit la banque de données génétiques, ce qui leur apporte beaucoup plus d'ouvrages, mais... C'est des experts, puis c'est comme tu parles de témoignages à court, des ententes témoigner, ça vaut tout l'or du monde. Puis ça, c'est sans compter qu'à l'occasion, ils vont se déplacer sur certaines scènes.
Okay. Puis est-ce que c'est des policiers dûment formés qui ont bifurqué un peu vers la science?
Non, c'est pas des policiers.
Okay.
C'est du personnel civil, tu as beaucoup de techniciens en laboratoire,
tu as des biologistes. Ça, c'est à la Sûreté du
Québec. Ça, tous les corps de police peuvent se servir du LSGML. C'est pas rien que la SQ, c'est pas exclusif à la Sûreté.
Il y a plusieurs textos qui entrent, là. J'ai l'impression que ça intéresse pas mal les gens qui ont déjà donné d'une façon ou une autre leurs empreintes, là. Il y a quelqu'un qui dit « Si j'ai donné mes empreintes à l'aéroport, Nav Canada, est-ce que je suis fiché techniquement? »
Non, c'est pas la même banque.
C'est indépendant. Oui. OK. Oui. Je te lis un texto qui est entré, qui est quand même assez sensible, mais tu as été policier, puis je me dis, vous avez sûrement reçu ces commentaires-là plus qu'une fois. Fait que je suis curieuse de t'entendre réagir là-dessus, Dany. Dany Morissette, en passant, qui est ex à la SQ, là, qui est avec nous ce matin. Les policiers et la justice protègent trop les criminels et négligent les victimes, familles de victimes, selon moi. On s'en fiche que les aveux sont obtenus illégalement. Le gars qui a tué mon frère est encore et aussi illégalement, à mon avis, en cavale. C'est un auditeur qui nous écrit ça. J'imagine que c'est pas la première fois que tu entends des affaires comme ça, là.
Non, puis en même temps, ben, je comprends la déception du monsieur en question. Je suis pas au courant du dossier en tant que tel, mais je vais parler pour la grande majorité des policiers, surtout au niveau des enquêtes. Puis je l'ai dit lors d'entrevues précédentes avec vous, moi, ma priorité, c'est la victime. C'est la victime, c'est de m'assurer d'avoir une satisfaction avec cette victime-là. Puis, dans le dossier, justement, de la gardienne, David Gionnet, c'est ça son nom, il est allé jusqu'au bout, lui-là. Là. Donc, moi, je pense que dans son cas, lui, s'il y a une déception, peut-être de commencer par parler à l'enquêteur au dossier, de regarder avec lui qu'est-ce qui n'a pas bien été dans son dossier, puis s'il n'y aurait pas d'autres choses à faire. Puis là, dans son cas, lui, c'est un meurtre non élucidé, donc c'est un cold case. Le dossier n'est jamais fermé. Il y a certains dossiers qui n'ont aucune prescription. Les agressions sexuelles, les meurtres, les dossiers violents. Donc, oui, le meurtrier est toujours en cavale dans son cas.
Est-ce que les policiers y travaillent encore ou ils font un élément qui arrive ou une relance de la famille pour que le dossier soit ouvert?
On a une escouade qui s'appelle les cold cases, les dossiers non résolus, les disparitions non résolues. Le dossier de Cédric Provenché, c'est probablement le dossier le plus médiatique et le plus important de la Sûreté du Québec encore aujourd'hui. C'est des dossiers qu'on ne lâche pas prise. C'est sûr qu'on ne met pas 50 enquêteurs sur un dossier qui date de 20-30 ans, mais à partir du moment qu'on a une information, une piste d'enquête, on ne la met pas de côté. Donc, dans son cas, à lui, son dossier n'est pas fermé, ça c'est sûr. C'est sûr, parce qu'on n'a pas trouvé le sujet. Ouais.
Mais est-ce que vous n'êtes pas obligé d'appeler les familles pour dire que vous avez eu du nouveau sur leur dossier concernant leur frère ou leur mère qui ont été tués?
Non, on rentre encore dans une autre technique.
Ouais.
Des crimes contre la personne, on appelle ça des holdbacks. En français, on retient certaines informations.
Ouais.
Pourquoi? Pour éviter qu'un jour, ça vienne aux oreilles du suspect. Puis ça, les holdbacks... On le fait même à l'intérieur de notre organisation. Il y a plein de policiers qui ne sont pas au courant de ce qu'on fait. Exemple, une perquisition. Moi, quand je préparais des perquisitions au niveau des stupéfiants, le monde avait l'information, l'adresse, tout seulement le matin lors du briefing. Donc, c'est la même chose dans ces cas-là. On regarde l'information. Des fois, c'est l'arme du crime. Des fois, c'est le modus operandi, comment il a procédé. Des fois, c'est le véhicule. Souvent, tu sais, dans Cédric Provenché, le véhicule, le fameux Acura, il n'est pas sorti le premier jour. Hein. On a attendu. Fait que c'est toutes des techniques en question.
Je ne sais pas si c'est une autre question que je peux me permettre de te poser parce que je vois les textos entrer. Puis peut-être que pour monsieur, madame, tout le monde, la façon de fonctionner n'est jamais vraiment claire. Peut-être que tu n'auras pas la réponse non plus. Mais il y a des gens qui font le comparatif des crimes. Tu sais, il y en a qui disent que, bon, ils sont d'accord avec le texto que je t'ai mentionné un peu plus haut là, sur le frère qui est décédé par meurtre, que l'importance... des crimes varient, puis que c'est pas toujours juste. T'sais, on a une victime de viol qui nous écrit, puis bon, son violeur a eu 6 mois. Elle dit que son frère a volé, puis lui a eu 4 ans de prison. Oui. Fait que comment ça fonctionne?
Tu sais, la justice, puis je suis tellement d'accord avec eux. Je vais vous donner un exemple qui va même être pire que ça. On arrête du monde qui vend des stupéfiants, qui vend de la cocaïne, ils pognent rien, puis on va d'un autre côté ramasser quelqu'un qui vend des cigarettes de contrebande. Mm. On va saisir sa maison, on va saisir son véhicule, on va faire de la prison, on va le mettre dans la rue.
Mais ça...
Tu sais, le gars, c'est un crime sympathique, là, les cigarettes de contrebande, ouais. Mais il fait pas de mal à personne.
Mais
là.
Dany, ça fait des années que j'ai parlé de ce dossier-là, mais ce qui est incroyable au Canada, c'est tu peux t'attaquer à une personne ou tu peux faire un crime, puis tu vas payer quand même cher. Mais si tu t'attaques au système, si tu voles de l'argent au gouvernement, ouais. Tu vas payer encore 2 puis 3 fois puis 4 fois le prix que tu aurais dû payer. Ne vole jamais le gouvernement, parce que si tu voles le gouvernement va te le faire regretter.
Mais au niveau, pour répondre à la question, parce que madame ou monsieur a pris la peine de nous écrire, Nous, notre travail comme policier, c'est de réussir à trouver un suspect puis de l'amener devant le juge. Rendu là, notre job est pas mal fait. Il va nous rester à témoigner. Mais tout ce qui s'appelle plea bargaining entre la défense, la couronne et après ça, l'entente commune peines, pour la sentence, c'est le juge qui la détermine. Malheureusement, c'est pas le policier. Par contre, c'est comme n'importe quoi. Il y a des bons puis il y a des très bons policiers. Il n'y a pas de mauvais policiers, là. Fait que peut-être que dans le cas précis, elle a tombé sur un bon policier.
Danny Morissette, ça a été un plaisir. On t'en jase-tu la semaine prochaine ou dans deux semaines, peut-être? C'est Audrey qui gère ça.
On va regarder le calendrier, certainement. Mais normalement, c'est maximum aux deux semaines. On ne peut pas se permettre plus.
Puis en soi, ben oui, il charge assez cher. C'est ça. Merci beaucoup, Danny. Ouais, puis j'espère que ta labyrinthite va se régler. Moi, j'ai eu ça pendant quoi 6 mois à peu près. Puis j'étais plus capable de m'endurer. Toi, ça fait quoi, 2 semaines? Là?
Non, la semaine passée.
La semaine passée, oui. Puis ça semble être réglé, là.
Ah, je suis encore étourdi, je te dirais. Là, des fois, je cherche mes mots, mais ça va mieux. Dis-moi donc une chose, avant de terminer rapidement, j'ai été voir ton gala de lutte.
T'es même pas venu me dire salut après.
Non, ben là, écoute, j'ai trop de monde autour de toi.
Caroline.
Félicitations, vous avez ramassé combien d'argent?
Avec toute l'équipe, on a ramassé 20 750 $.
Super. Puis
pour la bouchée généreuse.
Pour la bouchée généreuse. Mais explique-moi, il y a une affaire que je n'ai pas compris, puis là, c'est le côté enquête qui embarque. Là. Pourquoi Pascal était du bord de ton adversaire au début, puis elle virait à la dernière minute? Qu'est-ce qui s'est passé?
Je ne le sais pas. Je pense que Pascal a réfléchi à ce qu'elle était en train de faire. Elle l'a regretté, puis elle est venue me sauver la vie.
Mais il allait manger une volée. Elle fait pas le choix. Là.
Tu as-tu pardonné?
C'était pas une volée, c'était une chaise rouge.
Ouais.
J'espère que tu veux pardonner.
Ah oui, j'ai pardonné. Okay. On est de même, nous autres. Hein? On oublie vite, les hommes. Hein?
Ah, on pardonne facilement.
Oh, les femmes, on les aime tellement. Danny Morissette, merci.
Merci à vous.
Bye-bye. Rage Against the Matin.